Bienvenue à vous tous. Re-bienvenue à ceux qui sont avec nous déjà tout au long de cette journée où nous avons déjà été enrichis par bien des perspectives, des aspects de Sainte Thérèse de Jésus en ce cinquième centenaire. Ce soir, donc, nous commençons la deuxième partie de notre colloque avec une perspective d'ouverture au monde et aux besoins de l'Église. Et il y aura aussi des séances parallèles, comme il y en a eu cet après-midi, qui elles, sont aussi scientifiques que celles d'aujourd'hui. On a eu tellement de contributions qu'il a fallu les répartir sur deux jours, ce qui est une excellente nouvelle. Donc, voilà. Les critères sont plutôt au niveau des conférences. Ce soir, évidemment, j'ai honte de devoir présenter le père Étienne Michelin chez lui, alors que je suis l'étranger, mais voilà, les besoins du colloque sont ainsi faits.
Il n'y a pas d'étranger à Notre-Dame de Sainte-Garde.
C'est vrai, bravo, bon, merci. Donc le père Étienne Michelin, pour ceux qui éventuellement dans cette salle ne le connaîtraient pas, est prêtre de Notre-Dame de Vie. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Professeur de théologie dogmatique, ici au Studium, directeur spirituel également, directeur et animateur de la collection Sorgue de Notre-Dame de Vie, et puis également, last but not least, excuse me for my accent, il est aussi membre du comité du colloque qui a préparé, donc c'est avec lui, avec plusieurs autres frères, Pierre de Cointet et frère Marie-Laurent, Dorothée, et j'en oublie certainement, on fait toujours des gaffes dans ces cas-là, nous avons donc préparé ce colloque. Merci beaucoup, Père Étienne Michelin, de nous partager en ce soir Thérèse d'Avila, Lumière et témoin à la croisée des époques, qui était donc un peu le sujet que nous avons choisi pour ce colloque, ce sujet général et en même temps transversal.
Merci beaucoup, bienvenue à toutes et à tous. Cette intervention se déroulera en trois points, un point introductif et puis un second que j'ai intitulé « Premières étapes » et un troisième qui s'intitule « La soifée devient source ». Et puis nous irons ensuite dans un quatrième point, une forme de retour à ce qui me semble être le centre, en tout cas d'intérêt pour des personnes du XXIe siècle qui cherchent à vivre dans la lumière de notre mère Sainte Thérèse d'Avila. Nous savons que le cardinal Ratzinger s'est interrogé sur le fait que depuis une centaine d'années, disait-il en 1971, les réponses chrétiennes n'avaient pas d'influence sur la société. Et son analyse était que c'était parce qu'elle ne partait pas des questions des hommes. Et donc, il a dit cette formule, c'est pour cette raison qu'il est indispensable de se poser les questions avec l'homme qui cherche. C'est une composante essentielle de l'annonce en tant que telle, car ce n'est qu'ainsi que la parole peut devenir réponse. Nous devons par conséquent faire d'abord nôtre le questionnement sur Dieu de l'homme d'aujourd'hui, afin d'y redécouvrir Dieu et de pouvoir le dire. L'objet de cet entretien n'est pas du tout de lister les questions de l'homme d'aujourd'hui, mais d'essayer de regarder comment Thérèse a été très attentive aux questions posées par son époque, qui de fait apparaît bien comme un temps à la croisée des époques. Donc, premier point, Thérèse d'Avila, si je tape l'expression « à la croisée des époques » sur Google, je vois apparaître en première ligne l'annonce de notre colloque. En seconde position, aux éditions Embronnet, l'annonce d'un CD musical portant le nom de « Pass, Salam et Shalom ». Puis vient, en troisième position, une référence à Martin Luther, un homme dit à la croisée des époques. et un article dont l'auteur nous dit qu'il a appris du réformateur trois choses. D'abord, que Dieu fait des cadeaux, autrement dit la gratuité. Ensuite, que tout est question de relation. Et finalement, Luther lui a appris à aimer la personne de Jésus-Christ. Ce sont trois fortes questions posées à l'Église catholique latine au XVIe siècle. En choisissant pour titre de notre colloque international Thérèse d'Avila à la croisée des époques, une figure de la rencontre, nous avions confusément à l'esprit qu'il s'agit bien de cela. La gratuité du dessein divin créateur et sauveur, seigneur de l'histoire humaine et de l'histoire du salut, la rencontre dans toutes ses dimensions, le Christ en toute sa plénitude, de Christ total, corps et tête, ecclésial. Et voilà peut-être ce qu'il importe de redécouvrir pour en vivre plus intensément et assumer ainsi aussi paisiblement que possible le combat de l'évangélisation d'une époque à l'autre. Elle est grande, elle est familière, elle est fraternelle, elle est maternelle, elle est audacieuse, elle est prudente. Mais d'où lui vient ce charme si prenant? D'où lui viennent ce dynamisme et cette force d'attraction tout à la fois impressionnante et consolante, qui porte son âme d'un seul mouvement au plus près de Dieu et au plus près des gens de son époque. D'où lui vient cette expertise en science de Dieu et de l'homme, ce réalisme profond qui est toute la vie de l'esprit et qui traverse les siècles sans ignorer les changements d'époque, sans prétendre à une autre universalité que celle de la tendresse et de la proximité affectueuse, exigeante, quelquefois fascinante. Cette femme est autre que toutes les représentations qu'on peut s'en faire. Elle qui fut la plus belle fille d'Avila, elle se trouve laide et chassieuse et implore le pardon du ciel pour gens de la misère. Dénoncée devant les tribunaux inquisitoriaux, elle patiente inlassablement. Analysée et mutilée en ses écrits, avant de l'être en son cadavre, par des ecclésiastiques pour qui la formule claire est seule garante d'une vérité devenue une chose, elle ne peut rien face au système en son entier, mais elle peut tout dans la rencontre face à face. Statufiée en mère des spirituels, ou en marcheuse intrépide, ou encore en extatique à répétition, elle ne se trouve à l'aise dans aucune représentation. Nous connaissons le déroulement de sa vie, d'Avila à Alba de Tormes, du soin apporté à sa parure, à la rude bure des déchaussés, de l'attention obséquieuse aux usages mondains, à l'humilité qui consiste à marcher selon la vérité, de l'effort volontaire pour avancer, à cette pauvreté confiante et audacieuse, du désir de la totale clôture pour jouir en solitude de l'ami, à l'éreintant brinque-ballement des chariots surchauffés ou gelés, du choix des fréquentations, au consentement à la fraternité universelle en Christ. D'une fratrie de 12, dont 9 aventuriers du Nouveau Monde, à une famille que personne ne peut dénombrer, de la recherche de Dieu en soi à la recherche de soi en Dieu, de la passion exclusive pour le Seigneur de son âme à l'immolation complète pour son corps qui est l'Église. Nombreux sont les déplacements qui jalonnent un itinéraire parcouru apparemment au moins en des régions déjà acquises au Christ et baignant de toutes leurs racines dans une culture de chrétienté plus tout à fait médiévale et pas encore renaissante. Un siècle qu'on appelle d'or, un siècle plombé aussi, et lourdement, comme l'est tout siècle, par les 7 péchés capitaux qui assaillent, non sans l'action du diable, le cœur humain et rendent parfois bien obscure la mission de l'Église. Une culture de chrétienté, ce point serait à discuter. Que les signes du catholicisme soient partout dans l'Espagne thérésienne est indubitable. Ils sont en plein essor. Créativité et volonté de marquer le territoire, célébration de Dieu et expression de la puissance conquérante. Marqué par le christianisme jusqu'à saturation, certainement, l'atmosphère du temps thérésien n'est pas pour autant pleinement évangélique. Loin s'en faut. L'un des enjeux de ce XVIe siècle réside dans l'imbrication pratique entre le pouvoir politique et l'autorité ecclésiale, entre les deux glaives, comme on dit. Les mouvements de population, le flux conquérant et le reflux mauresque, l'implantation juive et les problèmes liés à l'identité espagnole marquent profondément, d'un point de vue démographique tout autant qu'économique et culturel, la péninsule ibérique, moins d'un demi-siècle avant la naissance de Thérèse. Les relations osmotiques, plus que dialogales, fusionnelles, plus que missionnaires, entre l'institution ecclésiale et les structures impériales et royales, attestent à l'évidence que l'évangile du Christ n'a pas encore porté tous ses fruits de transformation et de conquête. Pire que cela, il semble que dans bien des situations, la sentence de Saint Bernard soumettant le glaive matériel au glaive spirituel, le second tiré par l'Église et le premier pour l'Église, soit appliquée sans être interprétée, et que parfois même elle soit inversée, le spirituel servant à son corps défendant de caution aux princes et aux prélats. Le christianisme, porteur des germes d'éternité rédemptrice, véhicule aussi en sa marche les virus qui vont le mettre à mal jusqu'à nos jours. Il y a le déchirement anthropologique entre la nature et la grâce, dans l'attitude religieuse, entre la lettre, l'esprit et l'institution, dans la lecture de la Bible, entre les découvertes scientifiques et l'autorité ecclésiastique. Il y a Henri VIII et il y a Thomas More. Il y a Martin Luther et il y a Érasme de Rotterdam, deux disciples de saint Augustin, le libre arbitre du second et le serf arbitre du premier. Il y a surtout, merveilleuse et tragique, l'expérience si profondément évangélique que le christianisme est une histoire de rencontre. Où demeures-tu ? Venez, vous verrez. Allez, entrez, restez, repartez. Rencontre signifie intersubjectivité et dialogue, distance et proximité, permanence du sujet et avènement du sujet, accueil et don, affirmation de soi et dépassement de soi. Histoire signifie chemin et terme, permanence et changement, cycle et avancée, tension vers et détachement de, solidité du présent et incertitude de l'avenir, expérience singulière, incommunicable et appartenance à un groupe, accueil de ce qui me précède et transmission à ceux qui me succèdent. Le Christ Jésus est l'homme de toutes les rencontres. En lui, toutes sont assumées, purifiées, exaucé jusqu'à la communion trinitaire, en son corps blessé et glorifié. Décidément, l'omniprésence du christianisme ne signifie pas que Jésus soit tout en tous. S'il en était autrement, il serait impossible de comprendre l'intense bouillonnement rénovateur qui, surgissant sous des couleurs et en des lieux si divers et parfois improbables, va assurer en cette époque, en cette période, la permanence du témoignage rendu au Christ, alors que bien des piliers de la culture dominante vont se trouver fragilisés, combattus et parfois emportés. De ces nombreux tournants, de ces nombreux passages, Thérèse d'Avila a été témoin. Il représente comme la trame générale du changement d'époque, trame sur laquelle elle a su tisser le fil d'une existence unifiée. Non seulement elle y est parvenue, mais elle a reçu aussi le don d'en décrire le processus, offrant ainsi une amitié et une médecine à qui éprouve les angoisses de la désintégration intérieure et sociale. Assoiffée par nature, par culture et par grâce, assoiffée de plénitude et de grandeur, elle vivra sa vie comme une longue quête, jamais finie. Exploratrice de l'intériorité humaine, dans toutes ses arcanes, créatrice d'un style de vie nouveau, elle se présente à nous comme experte en sciences de Dieu et en sciences de l'homme. À son école, dit le pape François, nous apprenons à être pèlerins. Au fond, C'est l'unification progressive de cette existence dont Thérèse atteste la rayonnante fécondité, qui constitue la lumière centrale de son témoignage et qui justifie notre investissement commun de recherche et de partage en ces jours. Nous aussi, nous sommes à la croisée des époques. Pour nous aussi, le défi de l'unification personnelle dans une culture éclatée est partout présent. À nous aussi, il revient de construire en empruntant des chemins bien déconcertants et pour une large part imprévisible, cette unité intérieure. On appuie sur mute, il paraît. Vas-y. Certes, les contextes sont profondément autres, en sorte que tenter des comparaisons domaine par domaine n'aurait sans doute pas grand sens. Mais Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et à jamais. C'est donc ce fil de la rencontre entre Thérèse et Jésus-Christ que nous allons suivre sans nous préoccuper d'exhaustivité, mais plutôt de manière apéritive ou ponctuelle, et jusqu'en 1572 seulement. Premières étapes. La voilà, cette enfant. Elle naît le 28 mars 1515, elle est baptisée le 4 avril. C'est le jour où est inauguré le monastère de l'Incarnation, où elle entrera le 2 novembre 1535. Ignace de Loyola a 24 ans, Martin Luther en a 32. Depuis 23 ans, la route des Indes est ouverte, et Thérèse verra tous ses frères tenter la grande aventure des lointains. En 1517, Charles V ou Ier arrive en Espagne, et Martin Luther placarde sur l'église de Wittenberg ses 95 thèses célèbres qui inaugurent en quelque sorte la réforme protestante. À la mort de sa mère, en décembre 1528, année de famine, la jeune fille de 13 ans se réfugie auprès de Marie et dans la lecture. Elle se déploie dans le milieu familial, gardée de tout dérapage excessif par le sens très vif des convenances et du controversé point d'honneur. Lucide sur la personnalité de sa maman, elle navigue comme elle peut dans un cousinage nombreux et sous l'influence d'une cousine dont le père juge promptement qu'elle n'est pas appropriée. La voilà, cette jeune pensionnaire. Sa sœur vient de se marier, il ne convient pas qu'elle reste seule fille à la maison. Au printemps 1531, elle devient pensionnaire au couvent de Notre-Dame-de-Grâce. La même année, le petit Philippe fait son entrée à Avila en grand appareil. À la fois protégé par la vigilance des sœurs Augustines et soutenu par le développement de l'amitié de Maria de Briceño, le couvent offre une possibilité que la maison familiale ne saurait proposer, une mise à distance des évidences sociales et du bien-agir catholique. Les religieuses ont tous les défauts et toutes les qualités de leur temps. Et il est vraisemblable que la structure conventuelle reflète l'organisation de la société avilaise. Mais ces femmes cherchent Dieu. Elles se laissent rencontrer par lui. Thérèse bénéficie de cette recherche. Elle se laisse aussi rejoindre. Alors se produit une première recomposition intérieure. Elle demande à Dieu de lui indiquer l'état dans lequel elle pourra le servir. Vie 2:8. Mon inquiétude quand elle arrive était telle qu'on connaisse toutes les bêtises que j'avais faites, qu'au bout de 8 jours, et peut-être moins protégée, j'étais beaucoup plus contente que dans la maison de mon père. Elle est habile, hein. Partout où j'étais, je satisfaisais tout le monde, on m'aimait donc beaucoup. Peu à peu, cette bonne compagnie dissipa les habitudes que m'avait inculquées la mauvaise. Elle ramena ma pensée au désir des choses éternelles, para siempre, et atténua un peu mon aversion de l'état religieuse, aversion qui pourtant était immense. Si je voyais une religieuse verser des larmes en priant, ou autre vertu, je l'enviais fort. Car en ce domaine, mon cœur était si dur que j'aurais pu lire la passion tout entière sans une larme. À la fin de ce séjour, j'étais plus encline à me faire religieuse, mais pas dans cette maison. Elle avait analysé des comportements jugés par elle louches et confirmés par les plus jeunes sœurs. Et comme j'avais une grande amie dans un autre monastère, eh bien, ma foi, je me tournais de ce côté-là. Ah, les motivations, elles sont ce qu'elles sont. Mais le Seigneur était encore plus désireux de me disposer à prendre l'état qui me conviendrait le mieux. Il me donna une grave maladie et je dus retourner chez mon père. L'irruption contrastée de l'action providentielle. La voilà à la porte du monastère le 2 novembre. Quelques mois plus tôt, Rodrigo, son frère, est parti pour l'Amérique. Et c'est cette année que Thomas More a atteint les vastes prairies éternelles. Je serais allé dans n'importe quel couvent si j'avais pensé mieux y servir Dieu. Et voici un moment fort, un des deux moments où elle a le plus souffert dans sa vie. Lorsque je sortis de la maison de mon père, je souffris tant que je ne crois pas que ce puisse être pire quand je mourrai. On eût dit que chacun de mes os se séparait des autres. Comme je n'éprouvais pas cet amour de Dieu qui anéantit l'amour pour le père et les parents, l'amour de Dieu recomposant les relations sociales, je me fis en toute chose une si grande violence que si le Seigneur ne m'eût aidé, mes considérations n'eussent point suffi à me faire aller de l'avant. Il me donna le courage de me vaincre et me permit d'agir. Il me donna et me permit d'agir. Je passe, mais Jésus évidemment l'accueille avec beaucoup de joie, la sécheresse de son âme, immense tendresse. Au couvent, Thérèse trouve un style de vie qui impose des attitudes clairement monastiques, tout en s'accommodant d'une transposition des us et coutumes du temps. Il y a les pauvres sœurs, il y a les sœurs plus riches, ou très riches, et cela se voit dans leur habitat et dans les facilités qui leur sont laissées d'entretenir à travers la clôture et hors de celle-ci les relations nouées auparavant. De fait, ces relations sont essentielles à la survie du couvent, où se ressentent encore les conséquences de la famine, et où s'éprouvent aussi les conséquences du départ massif de jeunes hommes en quête d'un avenir incertain qu'ils imaginent tous très prometteur. Et la voilà religieuse, intensément. Elle prend l'habit, devient novice, Calvin publie l'institution chrétienne, la voilà professe, elle vit sa nouvelle condition dans un mélange de satisfaction et de frustration. 1537, la maladie s'abat sur elle. La voilà hors du monastère pour plusieurs années. Elle se rétablit suffisamment pour y retourner durant l'année 1539. C'est en avril 1542 que Saint Joseph la guérira. Mais durant ce temps, une lumière lui est offerte qu'elle ne cessera de refléter. Il existe une autre voie pour la recherche de Dieu et la rencontre avec lui que l'ensemble des pratiques liturgico-ascétiques auxquelles elle s'est soumise de grand cœur. Cette voie, elle l'appelle simplement la prière, la oración. Sans peut-être le savoir, elle participe ainsi de ces mouvements nombreux qui, en un temps où l'Église est en pleine examen de conscience et sans s'être concertés, sont reconduits par une démarche très personnelle vers le centre le plus profond de l'expérience fondatrice du christianisme. Nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure. Ceci est vrai depuis les bénédictins jusqu'aux jésuites, en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel monastique et religieux. La paix intérieure, beaucoup plus tard, écrira-t-elle, est telle que cette présence si indubitable des trois personnes se maintient clairement. Pour le moment, elle n'en est pas encore arrivée à ce point. Elle suit son attrait et celui-ci est comme bloqué par une constatation dramatique. Il existe à ses yeux un décalage insupportable entre ce type de relation à Dieu et les comportements moraux quotidiens. Dans sa droiture, Elle écrit « Je commençais à craindre de prier, me voyant si infidèle. Je priais, je vivais selon mon plaisir. Les pratiques conventuelles n'y changent rien. Thérèse souffre. Son entourage n'y comprend pas grand-chose. On a l'impression que, pour ceux qui sont chargés de la guider, la vie morale est une condition préalable à la vie mystique. Par conséquent, les manifestations d'une expérience intérieure non codifiée dans une âme non encore vertueuse ne peuvent venir que du démon ou du lobe. Mais c'est une étrange interprétation de l'Évangile où nous apprenons que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades, et que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Thérèse veut vérifier ce qu'elle pressent, à savoir que le christianisme commence dans la conscience de la présence divine, se poursuit sur le chemin qui conduit à réaliser pleinement cette présence dans toute sa vie et s'achève au moment où, inversion prodigieuse, l'âme ne cherche plus le visage mais se trouve en lui. La voilà, chercheuse et audacieuse. Elle interroge. Dieu est-il en elle, en nous, ou pas ? J'ignorais au début que Dieu était en toute chose, vie 18-15. Et voilà, lorsque sa présence me semblait si réelle, je croyais que c'était impossible. Que Dieu soit en nous, lui pour qui toutes les nations sont comme une goutte au bord d'un seau. Les personnes peu instruites me disaient qu'il n'y était que par grâce. Je vivais donc dans la peine. On connaît la suite, un dominicain me délivra de ce doute. Il me dit qu'il était présent. Et comment il se communiquait à nous ? Lumière. Thérèse expérimente une réalité dont elle ne peut douter. Elle en cherche la confirmation ecclésiale. Sa démarche n'aboutit pas. Elle poursuit sa quête. Elle voit l'incapacité de ces demi-savants qui lui ont tant coûté. Et voilà que l'expérience intérieure devient source d'une connaissance renouvelée et ouvre un chemin ecclésial de renouvellement. Lumière et témoignage, l'expérience individuelle ne saurait s'arroger la fonction de critère unique, encore moins premier, de la vérité du christianisme. La voilà maintenant sur cette mer orageuse. Sûre d'en être le temple, Thérèse veut habiter la demeure où son Créateur et Sauveur l'attend. Comment faire dès lors que d'une part ses relations mondaines sont vitales pour le monastère et font du bien à ses interlocuteurs, et que d'autre part la vie ecclésiastique ne fait pas place à l'expérience intérieure, surtout des femmes, et surtout lorsque paraissent des manifestations imprévues de cette expérience. Donia Teresa se rend compte que son expérience initiale au jour de son entrée à l'incarnation n'est pas ce qu'elle pensait. La vie en Christ n'est pas le résultat d'une chiquenaude initiale, mais l'art d'une collaboration constante entre deux amours qui se rencontrent et se donnent l'un à l'autre. La voilà mendiante d'une vie nouvelle, d'un commencement. Je passais plus de 20 ans sur cette mer orageuse. Si d'un côté Dieu m'appelait, de l'autre je suivais le monde. Alors Jésus lui parle. Je ne veux plus que tu converses avec les hommes, mais avec les anges. La tension propre aux disciples dans le monde, pas du monde, devient telle qu'il s'agit pour Thérèse d'un choix entre vivre et mourir. Je désirais vivre, mais était-ce vivre ? Tant de fois, je l'avais abandonné. Et la voilà, cette religieuse anxieuse, en fait, qui porte toute l'anxiété du monde de son temps, la voilà libre. On connaît la scène, une détresse, une statue, une rencontre. Mon âme était déjà lasse. Il arriva qu'un jour, entrant dans l'oratoire, je vis une statue rangée là. Sa vue me troubla toute, car elle représentait bien ce qu'il a souffert pour nous, le Christ tout couvert de plaies. Je me jetai devant lui en versant des torrents de larmes, le suppliant de me fortifier, une fois pour toutes, afin de ne plus l'offenser. La voilà devenue vraiment chrétienne. Une nouvelle vie, dit-elle, celle que j'ai vécue depuis que j'ai commencé à parler de ces choses de l'oraison, c'est-à-dire ce moment-là, et celle de Dieu vivant en moi, à ce qu'il me semble. Louez le Seigneur, louez soit le Seigneur, qui m'a délivré de moi-même. La liberté comme don de Dieu, et donc comme accrochage à Dieu. Concrète, la femme libre. Moyen immédiat de mettre en pratique, lorsque j'eus commencé à fuir les occasions et à m'adonner davantage à la prière. Le Seigneur commença à m'accorder ses faveurs, comme s'il eût désiré, semble-t-il, que je veuille bien les recevoir. Libéré, oui. Mettant en œuvre cette libération, oui. Responsable. Si christianisme il y a, c'est un christianisme de l'intériorité, de l'expérience subjective. Un christianisme mystique. C'est un christianisme qui transmet en expérimentant et qui interprète son expérience grâce à la médiation ecclésiale de l'époque dans laquelle il se trouve, avec toutes ses difficultés et tous ses scandales, dans une soumission croyante à la parole de Dieu consignée dans les Écritures saintes et exprimée au plus profond de la conscience par le Verbe créateur. Un choc se produit. Thérèse, jusqu'à son dernier souffle, va en assumer les conséquences douloureuses. L'assoiffée devient source. C'est mon troisième point. C'est qu'en effet, deux convictions se font jour dans sa conscience, deux certitudes, qui expriment la quintessence de la foi, à savoir que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voici la première conviction, chemin 19-15. Considérez que le Seigneur nous appelle tous. C'est la vérité même, on ne peut en douter. Alors, elle est d'une rhétorique de la pragmaticité sollicitatrice pour obtenir l'assentiment. Si cette invitation n'était pas générale, il ne nous appellerait point tous, et même s'il nous appelait, il ne dirait pas « je vous donnerai à boire ». Il pourrait dire « venez tous, car enfin vous n'avez rien à perdre, puis je donnerai à boire à qui me semblera bon ». Mais puisqu'il a dit qu'il nous appelle tous sans restriction, je tiens pour certain que tous ceux qui ne resteront pas en chemin ne manqueront pas de cette eau vive. Ce texte a une portée absolument universelle. Il indique que la grâce n'est pas simplement d'entendre l'appel, elle n'est pas seulement d'entendre la promesse, elle est aussi la grâce de la recherche. En effet, elle continue, plaise au Seigneur de nous donner la grâce de la chercher, cette eau, comme il faut la chercher. Et comme il s'agit de chercher l'eau, c'est la grâce de la soif que Thérèse demande au Seigneur de son âme. Consentir à être assoiffé apparaît comme la condition pour devenir source à notre tour. Et voici la seconde conviction. Que nous le voulions ou non, mes filles, nous nous acheminons tous vers cette fontaine, mais par des moyens différents. Dont acte. Mais, croyez-moi, et que nul ne vous induise en erreur en vous indiquant un autre chemin que celui de l'oraison. N'entendons pas par l'oraison ce demi-sommeil parfois éveillé des séminaristes entre 7 et 8 le matin. ou de telle autre forme de pratique, non. Pardonnez-moi, Mais peut-être qu'il s'agit simplement du mouvement vital de la grâce de l'amitié divine dans l'âme. Une grâce qui est en même temps filiale et fraternelle. Et qui certes a besoin de temps de gymnastique spéciale pour pouvoir se développer. Mais qui peut s'exercer et de fait s'exerce dans tous les micro-charnières de l'existence quotidienne. L'oraison est une amitié. Une amitié, ça s'exerce. Elle est faite pour s'exercer H24, J365. Faisons attention à ne jamais réduire l'oraison thérésienne à telle ou telle forme ou définition qui nous ferait bien plaisir et nous sécuriserait pour savoir si nous sommes dans les clous ou non. La question n'est pas là. La question est l'amitié. L'amitié avec Dieu. C'est pourquoi vous ne devez faire aucun cas de la peur qu'on vous a inspirée, ni des périls qu'on vous a décrits. Ah, ces numéros 5 et 6 du chapitre 20 du chemin, à lire de toute urgence. Avec une petite mise en garde au numéro 7 du même chapitre. Si quelqu'un vous disait que c'est dangereux, tenez cette personne elle-même pour un danger. Et fuyez-la. N'oubliez pas ce conseil, il se peut que vous en ayez besoin. Il y aurait du danger à manquer d'humilité et des autres vertus. Claro. Mais que le chemin de l'oraison soit un chemin dangereux, à Dieu ne plaise. Il semble. C'est cette humilité douce, là. Mais elle est très claire là-dessus. Parce qu'elle l'a su dans sa propre vie. Il semble que ses peurs soient une invention du démon, que l'on appelle aussi le père du mensonge et l'accusateur des frères. Ces deux convictions, ils nous appellent tous, et il n'y a qu'un chemin, vont assurer l'unification progressive de l'existence de Thérèse et faire de cette assoiffée d'eau vive une source rafraîchissante. La voilà libre pour une mission. Changement radical et progressif dans son existence. Il n'est plus question que de Dieu, de l'échange avec lui, et tout en demeurant en lui, de faire ce qu'il demande. Et Dieu, c'est Jésus, sa majesté, ami, frère, maître, époux, sauveur, mon bien, mon créateur, et tant d'autres dénominations. Il faut revoir le mode de vie. Plus question de soumettre la rencontre intérieure aux aléas d'une organisation conventuelle qui n'a pas comme première finalité d'en assurer les conditions. Progressivement se font jour d'abord la possibilité, puis la nécessité d'une fondation. L'élan intérieur de Thérèse est diffusif. Des échanges entre amis jaillit la lumière. Il importe de faire le tout petit peu qui dépend de nous. Aucun obstacle, intérieur, institutionnel ou mondain, ne pourra l'arrêter. Elle se sent impuissante à tout bien. Je n'avais plus aucune confiance en moi, toute ma confiance était en Dieu. Elle s'impatiente et se décourage. « Attends un peu, ma fille, et tu verras de grandes choses. » L'Inquisition supprime les livres en castillan. « Sois sans crainte, ma fille, je te donnerai un livre vivant. » Jésus a engagé sa présence agissante dans la médiation ecclésiale, mais il ne la limite pas à cette médiation. Ses confesseurs et conseillers divers entravent sa marche, plus ou moins, ou l'aident. Elle s'en plaint à Jésus. À voir comment vous traitez vos amis, il ne faut pas vous étonner d'en avoir si peu. Et lui, dans une autre circonstance où son confesseur s'oppose à la lumière intérieure, obéis-lui, il me le paiera. Libre pour une mission, libre et donc enfermé. Alors que le mouvement vers les périphéries existentielles caractérise la dynamique culturelle du temps, voilà Thérèse à la manœuvre pour s'enfermer avec quelques compagnes. Le but, chercher Dieu, le trouver, prendre contact avec lui, attester de ce contact par une vie fraternelle, discrète et par là rayonnante. Ensuite, advienne que pourra, marchons ensemble, Seigneur. Mais il faut assumer la quadrature du cercle catholique. Inspiration intérieure, médiation ecclésiale, liberté, obéissance, pauvreté désirée, moyens financiers nécessaires pour acheter, arranger, préparer un lieu, urgence et patience, hésitation et détermination très déterminée, habileté manœuvrière et attention aux événements providentiels. Le 24 août 1562, la fondation est inaugurée. Un tintamarre médiatico-ecclésiastique embrase la cité. Un an après la fondation de San José, Thérèse obtient la permission de rejoindre ses sœurs. Pour toujours, pense-t-elle. Enfermée, et donc aux extrêmes, la voilà à Saint-Joseph. Vie simple, joyeuse, silencieuse, fraternelle, à la fois souple et très exigeante. Une existence qui recompose le milieu social à partir de l'expérience commune de la fraternité en Christ et qui développe l'audace pour les rencontres. Une véritable mission sociale. Rien à signaler, presque rien, sauf ceci, un humanisme évangélique nouveau a élu domicile en Thérèse et ses sœurs ou ses filles. Il n'attend qu'un signal pour se répandre. Une rencontre va tout chambouler. Guerre de religion, découverte du monde nouveau. Guerre de religion, c'est guerre entre des chrétiens. Massacre interchrétien. Voilà. Découverte du monde nouveau. Ça lui parvient sous la forme de hérésie et paganisme. Bon. Faudrait peut-être s'interroger sur ces affirmations très tranchées de l'époque. Mais ceci envahit sa conscience, le monde est en feu. Que faire? Plus les saints sont pris par l'amour, plus ils sont proches de nous. Les saints sont à la fois les plus heureux et les plus malheureux des hommes. Que faire? Ce que l'Esprit Saint impose. Puisqu'il nous appelle tous, il n'y a qu'une voie qui conduise à la source d'eau vive. Il faut renverser tous les obstacles pour poursuivre la mission. Les rencontres se multiplient, les sollicitations aussi, les demandes de fondation, portées par des motivations bien diverses. Il lui faudra discerner, oser, refuser, renoncer, avancer, négocier, parfois interminablement. En fait, le Carmel va sans cesse de Kérit à l'Horeb, sur la route de tous les combats de l'humanité. Et ces combats sont les siens. 1567, Rubéo lui donne l'autorisation de multiplier les fondations. Thérèse quitte Saint-Joseph pour fonder, pour initier le mouvement de réforme, aussi avec les frères Carmes, pour obéir. Aux extrêmes, et dans une grande tempête d'épreuves. 1571, victoire de Lépante. La même année, la voilà nommée prieure du monastère qu'elle a quitté. Comment parviendra-t-elle à réaliser cela? Crainte par les religieuses en raison de sa réputation, elle installe Notre-Dame à la place de la prieure et s'occupe de nourriture et de boissons, de sourires et de délicatesses. Un an plus tard, elle fait venir Jean de la Croix, de 27 ans, son cadet, qu'elle appelle aussi véritablement le père de mon âme. La même année, Jésus lui signifie qu'elle est devenue en lui épouse missionnaire pour l'Église. Il m'a paru, en vision imaginaire, comme d'autres fois, au plus profond de moi-même. Il me donna sa main droite et me dit « Regarde ce clou, c'est le signe que tu seras mon épouse à partir d'aujourd'hui. Tu ne l'avais pas mérité jusqu'ici. À l'avenir, tu ne répondras pas de mon honneur en tant que ton créateur, ton roi, ton Dieu, mais comme ma véritable épouse. Mon honneur est le tien et le tien est le mien. » Et signe que sans doute son psychisme n'était pas absent de cette affaire, je rôdais toute la journée ainsi, profondément absorbé. J'en ai constaté depuis les grands bienfaits, ainsi qu'un surcroît de confusion et d'affliction de me savoir incapable de rien faire en échange de si grandes faveurs. Nous sommes arrivés au 18 novembre 1572, et c'est ici que s'arrête ce très modeste parcours d'une existence qui n'a parcours qui n'avait pas d'autre dessein que de rassembler quelques traits de la figure si attachante de cette femme de son siècle. Et nous allons retourner au centre. Et le centre, nous allons le lire ensemble. Et le lire dans un texte tiré du chapitre 41 du Chemin de la Perfection. Ça ne vous paraîtra peut-être pas le centre, mais moi, ça me paraît quelque chose de très touchant, en fait, parce que nous voyons dans ce texte, écrit en 1567, comme vous le savez, la première analyse un peu poussée que fait Thérèse des effets du choix que le Seigneur lui a demandé de poser et les conséquences de ce choix dans les relations de multiples formes qui se produisent dans la vie concrète des personnes concrètes. Lorsque l'âme constate qu'elle a la grande détermination, comme je l'ai dit, de n'offenser Dieu pour rien au monde, même si elle tombe de temps en temps, car dans notre faiblesse, nous ne pouvons nous fier à nous, elle se fiera d'autant moins à elle que sa décision sera plus forte, sachant que la confiance ne peut nous venir que de Dieu seul. Donc là, nous avons le fruit vraiment de la conversion essentielle de Sainte Thérèse en 1554, conversion qui entraîne toute son existence jusqu'à la fin et qu'elle nous communique et qui est la raison de la fondation de Saint-Joseph. Lorsque nous aurons compris cela, nous n'aurons plus à éprouver timidité ni contrainte, car le Seigneur nous favorisera et l'habitude aidant, nous ne l'offenserons plus. On vit alors dans une sainte liberté. Voilà la recomposition sociale. Et on fréquente les personnes qu'il est juste de voir, même si elles sont mondaines. Si ces fréquentations étaient toxiques et capables de tuer votre âme avant que vous éprouviez cette véritable crainte de Dieu, qui est le fruit vraiment très, 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 très subtil et très délicieux de la rencontre prolongée avec Dieu dans l'acte de la prière, elles vous serviront souvent après à mieux aimer Dieu et à le louer de vous avoir délivré de ce qui vous apparaît comme un danger notoire. Et le rapport de Thérèse aux conditions du monde est changé. Elle reçoit l'audace qu'elle n'avait pas. Et si vous participiez naguère de leur faiblesse, vous les aiderez maintenant à leur résister du fait seul de votre présence. Cela se produit sans vous flatter. Elle a dû remarquer que des gens étaient venus voir les carmélites et que du seul fait de leur présence, eh bien, ça avait produit cette affaire-là. Mais elle craint beaucoup que les carmélites et nous ayons mal aux chevilles à la fin de ce topo. Mais c'est impressionnant, l'apostolat de la présence, vous voyez, qui suppose cette conversion, et pas simplement cette conversion comme élan, mais comme lifestyle, comme style de vie. Comme style de vie. Il m'arrive souvent de louer le Seigneur. Alors on peut aller un peu plus loin, à la ligne 17, vous voyez où est la ligne 17? Oui. Évitons donc la contrainte. Vous la voyez ou pas? Oui. Tu veux le mettre en plus gros? Ah ben non, là... Non, tu es pas bon là, moi je vais le faire. Non, ça fait rien, laisse faire, ça fait rien. La ligne 17, vous y êtes?
Oui.
Évitez donc la contrainte, car si l'âme se décourage, cela nuit au bien. Les maîtresses des novices, les maîtres des novices, les éducateurs, les directeurs spirituels, les papas, les mamans, les époux, les épouses. Car si l'âme se décourage, cela nuit au bien. Elle tombe même souvent dans le scrupule et la voilà inutile à elle-même et aux autres. Même si elle n'en arrive pas là, elle pratiquera le bien. Elle pratiquera le bien, mais sa timidité et sa contrainte n'attireront pas beaucoup d'âmes à Dieu. Chers amis, ces textes sont d'une très très grande force pour l'examen de conscience ecclésiale que nous sommes invités à mener, nous aussi, à la croisée des époques. Notre nature est ainsi faite que les âmes s'effraient, elles étouffent, elles se refusent à prendre le même chemin que vous, tout en voyant clairement que c'est le plus vertueux. Ceci traduit, voyez, l'expérience de l'humanisme nouveau que Thérèse a vu se construire parce que d'autres avec elle ont répondu à la grâce de l'appel, quoi. Alors c'est très très simple, en fait. Il s'ensuit un autre dommage, celui de juger les autres. Vous avez tôt fait d'estimer imparfaits ceux qui ne suivent pas votre propre voie. Mais plus saintement, pour l'aider, fréquente librement le prochain sans tant de pusillanimité. Les audacieux. Leur sainte gaieté peut sembler dissolue, en particulier à nous femmes qui ne sommes point savantes. Bon, mais enfin, je veux dire, on n'est pas tellement mieux, nous, hein. Et qui ignorons ce dont on peut parler sans péché. On sent très bien ce dont de quoi elle cause. C'est très dangereux, on vit dans des tentations continuelles qu'il est très difficile de digérer, car elles portent préjudice au prochain. L'idée que tous ceux qui ne sont pas aussi pusillanimes que vous ont tort est extrêmement néfaste. Moi, j'en prends plein ma tête, là. Encore un danger. Lorsque vous devez parler de certains sujets dont vous avez raison de parler, la peur d'aller trop loin peut vous empêcher d'aventure de n'oser rien d'autre que louer ce que vous devriez avoir en abomination. Pactisez. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc mes sœurs, et après elle va nous appeler mes filles, on prend tout. Efforcez-vous d'être affable autant que vous le pourrez sans offenser Dieu. Comprenez toutes les personnes que vous fréquentez. Qu'elles aiment votre conversation, qu'elles aspirent à votre manière d'agir et de vivre. Et ceci est vraiment le témoignage dont le monde a besoin. La vertu ne doit ni les effrayer, ni les inquiéter. Il est très important que des religieuses, disons des chrétiens, des baptisés en Christ, soient jugés d'autant plus sociables par leurs frères et sœurs qu'ils sont plus saints. Et même si vous êtes très peiné lorsque leur conversation n'est pas telle que vous le voudriez, ne vous écartez point d'elle si vous voulez être utile et aimé. Donc, mes filles, numéro 8, tâchez de comprendre que Dieu, en vérité, n'attache pas aux petites choses autant d'importance que vous le pensez. Ça s'appellerait peut-être la vertu de magnanimité. Ne laissez pas votre âme ni votre cœur se recroqueviller. Mais vous voyez, se recroqueviller sur votre idée du salut, sur votre idée de la prière, sur votre idée de la perfection, sur votre idée, sur votre conception, sur votre sur votre subjectivité sclérosée. Vous risqueriez de perdre de grands biens. Et ces grands biens sont l'intention droite, la volonté ferme de ne pas offenser Dieu. Ne permettez pas à votre âme de se rencogner, car au lieu de trouver la sainteté, elle en tirerait beaucoup d'imperfections que le démon suscitera en elle par ailleurs. Je voulais partager avec vous ce texte et terminer en joignant le plus mystique au plus concret avec cette fameuse relation 56 du monastère de Séville en 1575. Jouissant un jour de la présence des trois personnes que je porte en mon âme, la lumière dans laquelle je les voyais en moi était si vive que je ne pouvais douter que le Dieu vivant et véritable ne s'y trouve réellement. Une petite mise en abîme intéressante ensuite. On me fit alors entendre des choses que je ne pourrais redire maintenant. Je compris notamment comment la personne du Fils s'est incarnée et non les autres. Je le répète, je me sens impuissante à en parler. Quelques-unes de ces lumières arrivent à l'âme d'une manière si secrète que l'entendement les perçoit à peu près comme une personne endormie ou à moitié éveillée entend les paroles qu'on lui adresse. Magnifique. Et voici la suite immédiate. Je trouvais bien dure la vie qui nous empêche d'être toujours en cette admirable compagnie. Et je m'écriais, Seigneur, donne-moi quelques moyens qui me permettent de supporter la vie. Il me fut répondu. Songe, ma fille, qu'après ta mort, tu ne pourras plus accomplir pour mon service ce que tu fais maintenant. C'est Jésus qui parle. Prends pour moi la nourriture et le sommeil. Tout ce que tu fais, fais-le pour moi, comme si tout cela n'était plus vécu par toi, mais par moi-même. Et comme Jésus a besoin d'accréditer sa parole, il continue, c'est là ce que disait saint Paul. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Étienne. En tout cas, cet après-midi, nous avons admiré les stratégies rhétoriques et autres stratagèmes mis en place par l'écriture de Thérèse. Ce soir, nous en avons eu un exemple vivant. Vraiment, on s'est senti entraîné. Je ne sais pas si c'était Thérèse Redivivus ou Étienne habité par Thérèse, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes allés à la rencontre de cette Thérèse de Jésus et de ses nombreuses rencontres. Et bien sûr, inévitablement, eh bien, nous sommes arrivés à la rencontre de Jésus. Alors, on pourrait dire Jésus de Thérèse, évidemment, pour reprendre la fameuse petite anecdote, mais c'est plus que ça, c'est Jésus en Thérèse. Jésus en Thérèse, qui lui a fait aller à son tour à la rencontre du monde et de l'Église avec ce magnifique et extraordinaire humanisme évangélique qui, effectivement, est peut-être la réponse depuis toujours et pour toujours à chaque croisée des époques.